Europe 1, 14h-15h.
Clap. Margot Barallon.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Clap, l'émission qui vous raconte le cinéma. Je suis ravie et très honorée de me glisser dans le costume de Mathieu Charrier pour quelques semaines. Aujourd'hui dans Clap, nous parlerons de l'art du doublage. De grandes voix nous ont quittés pendant l'année écoulée. Jacques Frantz, qui a notamment doublé Robert De Niro et Mel Gibson, mais aussi Patrick Poivet, version française de Bruce Willis, ou encore Roger Carrel, qui fut Astérix, Mickey Mouse, ou encore le robot C-3PO dans Star Wars. Mais depuis quand double-t-on les films étrangers? Comment le doublage traduit-il la culture, les références de chaque pays? Je vous raconte tout ça dans un instant. Et Céline Monsara, l'inoubliable voix de Julia Roberts, sera mon invitée. À 14h30, c'est une autre voix, celle du groupe Louise Attaque, qui nous parlera des films de sa vie. Gaëtan Roussel nous racontera par exemple son premier souvenir de cinéma.
Téléphone.
Téléphone? Il a dit téléphone!
Et alors? T'es sûr ou quoi? Bien sûr qu'il a dit téléphone!
Maison.
Vous aurez peut-être reconnu E.T. l'extraterrestre, et pour découvrir les autres souvenirs de cinéma de Gaëtan Roussel, rendez-vous dans une demi-heure. Juste après, place au débat des critiques pour parler des dernières sorties, DVD, VOD sur les plateformes. Alors faut-il voir ou revoir Au nom de la Terre sur OCS, Madame Claude sur Netflix, Mignonne et Poisson Sexe, deux films disponibles sur MyCanal. On vous dira tout en fin d'émission. Voilà pour le programme de Clap, l'émission qui vous raconte le cinéma, et tout de suite le récit sur l'art du doublage.
Europe 1. Le récit.
On a souvent l'impression que les doublages datent de la fin des années 70. C'est l'époque de la VHS, les films étrangers débarquent directement dans les salons français, mais pas du tout. La question s'est posée bien plus tôt, dès l'arrivée du tout premier film parlant. Le chanteur de jazz, film musical qui intègre seulement quelques dialogues, débarque en France en 1929.
Wait a minute. You ain't heard nothing yet. All right, hold on, hold on.
À partir de là, la question du doublage divise. Faut-il mettre des sous-titres, mixer sous-titres et phrases courtes? Aux États-Unis, certains studios vont même tourner chaque film en plusieurs langues. Le premier film entièrement doublé en français sort en 1930, Désemparé, avec George Bancroft, produit par la Paramount. Magie de l'illusion ou ratage complet, le résultat divise. Les réalisateurs, eux aussi, donnent leur avis. Jean Renoir, par exemple, refuse de doubler en anglais sa grande illusion pour l'exporter. Alfred Hitchcock, au contraire, est un fervent partisan du doublage, car il estime que les sous-titres détournent l'attention du spectateur.
Monsieur Robert, je suis chargé de faire une enquête relative à ces nombreux vols de bijoux. Voudriez-vous avoir l'obligeance de venir jusqu'à mon bureau, à Nice?
D'accord, mais permettez-moi de m'habiller plus correctement.
Il n'aurait peut-être pas eu le même avis s'il avait su que la version allemande de son film Les Enchaînés, sorti en 1946, comportait un petit oubli parfaitement volontaire. Cette histoire d'espionnage implique un industriel qui travaille pour IG Farben. Mais dans la version doublée en allemand, toute allusion à l'entreprise disparaît. Et pour cause, c'est cette même entreprise qui fournissait les gaz utilisés dans les camps de concentration pendant la guerre.
Messieurs, je vous assure que l'on peut faire confiance à cette femme.
Mais ce n'est pas elle. Ce sont ces espions allemands qui m'inquiètent. Nous ne risquons pas grand-chose en appliquant votre plan.
Non, parfait. Je vais envoyer d'urgence mes instructions à Berlin.
Et ce n'est pas la seule fois que le doublage va permettre de changer l'histoire d'un film. En 1953, Pick Up on South Street de Samuel Fuller devient Le Port de la Drogue en version française. L'histoire d'un pickpocket qui, par erreur, vole un microfilm appartenant à des espions communistes. Enfin ça, c'est la version américaine, parce qu'en France, avec le doublage, les agents soviétiques deviennent des trafiquants de drogue. Le Parti communiste, qui a alors beaucoup d'influence dans les milieux artistiques, a fait pression pour gommer tout l'aspect politique du film original. Pour être sûr que l'esprit de leur film sera respecté, certains réalisateurs préfèrent donc confier la réalisation du doublage à des cinéastes locaux, plutôt qu'à des directeurs de doublage. Prenons Stanley Kubrick. En 1999, pour le doublage français d'Eyes Wide Shut, il fait appel à Patrice Chéreau, qui confiera finalement cette tâche à la réalisatrice Pascale Ferrand.
Je ne sais pas, mais il me semble qu'un maillon m'échappe là. Pour vous, c'était du bluff, une mascarade. Non, mais franchement, quel genre de mascarade à la con, finie par une morte dans une morgue !
Kubrick mourra quelques mois avant la sortie du film et n'entendra donc jamais la voix d'Ivan Attal remplacer celle de Tom Cruise dans le rôle principal de son film. Le doublage est donc un art qui doit prendre en compte la culture locale et la langue. Il faut changer certaines références, refaire des jeux de mots incompréhensibles pour les étrangers, tout en veillant à respecter les mouvements des lèvres. Et parfois, certaines libertés donnent des moments ou des répliques cultes. Alain Cassard et Juliette Vigouroux étaient chargés de l'adaptation de la série Les Simpsons à la télévision française.
Alors, il y a une réplique d'Homère, « Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God », le fameux « Oh my God » des Américains. Et donc, Alain avait trouvé « oh punaise », qui était parfaitement synchrone, et Philippe Pétieux, l'acteur qu'il double, a transformé ça en
« Oh punaise ».
Dès les années 50, le métier de doubleur se professionnalise. Certains arrivent à modeler leur voix pour faire toutes sortes de personnages. Roger Carrel, décédé il y a quelques mois, a incarné une multitude de rôles cultes. Le serpent dans Le Livre de la Jungle, le droïde C-3PO dans Star Wars, Porcinet, Mickey, mais aussi Astérix. Il en parlait au micro d'Europe 1.
Mais vous savez, c'était des liens presque familiaux que nous avions, parce qu'on a tellement travaillé ensemble, dans une telle amitié avec Uderzo et Goscinny, parce qu'on se voyait avant, on travaillait sur le texte dessus, on disait on va dire ça, on va faire ça, mais ils étaient tellement formidables. Je garde de ma carrière aussi des points de repère comme ça, qui étaient formidables.
Malgré le succès de Roger Carrel et quelques autres, les comédiens de doublage ont longtemps été considérés comme des acteurs manqués. On ne leur reconnaît d'ailleurs pas le statut d'artiste. En 1994, ils se mettent en grève et manifestent, notamment pour obtenir des droits sur les rediffusions des œuvres. Écoutez-les au micro d'Europe 1, vous reconnaîtrez peut-être Gérard Hernandez avant son succès dans la série Scène de ménage.
J'ai fait beaucoup de dessins animés. C'est passé de Roncho à Poncho, les Muppets, les Schtroumpfs, les Mousquetaires, Don Quichotte. Cette manifestation, c'est surtout pour ceux qui viennent derrière, là, lorsque leur travail est rediffusé, de voir qu'ils vont toucher un peu d'argent, parce qu'une voix, ça s'use beaucoup.
Ce que nous avons toujours demandé, c'était ça, une rémunération par utilisation, c'est-à-dire une proportionnalité copiée sur la vie de l'œuvre et non pas sur le cachet initial.
Une lutte qui paye, puisque le statut d'artiste-interprète finira par leur être accordé. Jusqu'au milieu des années 2000, le doublage devient de plus en plus qualitatif. Les spectateurs développent même un vrai rapport affectif avec les voix françaises. Tout le monde se souvient par exemple de la voix et du rire de Julia Roberts dans la VF de Pretty Woman.
Comment vous vous appelez ?
Édouard.
Édouard, c'est marrant, c'est un prénom que j'adore.
Voix que nous recevrons tout à l'heure dans ce studio. Ou de celle de Bruce Willis.
Je suis John McClane, je suis un flic de la police de New York. Je passais dans le coin, je me suis trouvé invité par erreur. Joyeux Noël.
Doublé en français par Patrick Poivet, décédé l'année dernière. Il faut dire qu'à cette époque, les versions sous-titrées dans les cinémas sont quasi inexistantes. Tout est diffusé en version française. Et le doublage va prendre encore une nouvelle envergure au début des années 2000 grâce aux studios d'animation. Des géants comme Pixar ou DreamWorks font appel à des stars américaines pour faire parler leurs personnages. Et ce sont des stars locales qui les doublent dans les pays de diffusion. En 2000, pour le film Dinosaure, c'est par exemple Jamel Debbouze qui est choisi pour camper un lémurien.
Je me suis amusé à post-synchroniser ce personnage, parce que ma petite sœur, je l'ai emmenée aux essais, a été complètement émerveillée et elle m'a dit mais fais-le. Je me suis beaucoup amusé parce que c'est bien écrit, c'est drôle et le lémurien n'est pas si éloigné de moi. On a vraiment l'impression que c'est moi. Des fois je m'y perds et ça m'effraie.
On ne compte plus aujourd'hui les stars qui ont prêté leur voix aux personnages d'animation, brandis souvent comme un argument marketing sur les affiches. Alain Chabat et celle de l'ogre Shrek, Elise Moon et Vincent Cassel ont donné vie aux personnages de l'âge de glace. Plus récemment, on pourrait parler de Pierre Niney dans Vice Versa. Bref, la liste est longue. Certains acteurs sont même castés, comme pour un rôle. C'est le cas de Bérénice Bejo qui double la princesse Mérida dans Rebelle. Et voilà comment le directeur créatif de Disney a pensé à elle.
Le soir des Césars, j'étais devant ma télé et quand Bérénice est montée sur scène et s'est exprimée, j'ai trouvé qu'il y avait un vrai côté petite fille chez elle, super mignon, vachement attachant. Je me suis dit tiens, on va la contacter, c'est elle qu'il nous faut pour le film.
Ah, ça m'a fait vraiment beaucoup de bien, effectivement, de pouvoir faire ça juste avant Cannes. Et effectivement, on n'a pas le temps de penser à autre chose et se préoccuper d'autre chose que de ça.
En 2018, Benoît Magimel se prête au jeu pour doubler Ken dans Toy Story 3.
Salut. Je m'appelle Ken.
Barbie. On s'est pas déjà vu quelque part ?
Je crois que je m'en souviendrai.
Allons, Ken, la récré ne dure pas éternellement.
Ça faisait longtemps que je voulais faire du une doublage dans des films d'animation et Ken s'est présenté, donc j'ai dit oui. C'est plus facile que de doubler un acteur dans un film parce qu'il faut se rapprocher le plus possible de son interprétation et donc ça devient compliqué.
Aujourd'hui, les mêmes questions agitent le milieu du cinéma en général et celui du doublage en particulier, notamment celle de la représentation. À sa sortie, à la fin de l'année dernière, Soul, le premier film Pixar à mettre en scène un personnage principal noir, suscite la polémique. Aux États-Unis, c'est l'acteur Jamie Foxx qui le double. En France, c'est Omar Sy. Mais dans plusieurs pays, notamment l'Espagne, l'Allemagne ou le Portugal, des comédiens blancs ont été choisis, ce qui a déclenché un véritable tollé. Preuve que cette question de la représentation se pose bel et bien, quelques mois avant, la Fox, la chaîne qui diffuse les Simpsons, avait annoncé qu'elle ne ferait plus doubler les personnages de couleur par des acteurs blancs. Lucien Jean-Baptiste, qui double en français des acteurs comme Chris Rock et Don Cheadle, expliquait sur Europe 1 l'importance de la couleur, même pour les voix.
Les individus comme moi, entre guillemets les noirs de France sans accent, mais qui ont un timbre, parce qu'effectivement... Le physique, la forme du visage, ont des effets sur les voix, c'est les résonances, les masques, etc. Donc, on pourrait dire que globalement, comme ça, j'essaie de résumer, les voix de noirs sont plutôt graves.
D'accord.
Le problème, c'est que, ok, on met des noirs sur des comédiens noirs, mais l'inverse ne se produit jamais. C'est-à-dire que jamais on va me donner la chance de doubler un comédien blanc.
Le doublage est aussi confronté aujourd'hui à un autre défi, celui de sa survie. Certes, la VF garde une importance colossale pour les films d'animation, majoritairement vus en français par les enfants. Mais les autres longs-métrages, comme les séries, grâce à l'essor des plateformes, sont de plus en plus regardés en VO. Cela n'empêche pas le public de rester attaché à certaines voix qui ont marqué des générations entières. Au point que reprendre le flambeau n'est pas toujours facile, même en 2021. C'est le cas pour Christophe Pérou, la nouvelle voix d'Eddie Murphy. Il a pris la suite après le décès de son doubleur d'origine, Medondo.
Arrêtez tout, faites plus rien, s'il vous plaît. Je suis Axel Follet de Beverly Hills. Arrêtez tout, je vous en prie, stoppez les machines.
J'ai cette lourde charge et en plus cet honneur, enfin d'abord de doubler Eddie Murphy et puis ensuite de prendre la succession de Medondo, qui était un des monuments du doublage, vraiment. Je ne serai pas dans l'imitation, forcément, mais j'essaie de proposer ce que je suis, quand même, si j'ose m'exprimer ainsi.
Dans le climat actuel, un homme noir ne peut pas se prendre une raclée par un blanc. C'est pour t'assurer, les émeutes, c'est pas trop mon truc, cela dit tout. Ce que je veux, moi, c'est un écran plat.
Alors, quel est l'avenir de la VF au cinéma? Comment travaille un comédien de doublage? On en parle dans un instant avec mon invitée Céline Monsara, inimitable voix française de Julia Roberts. Mais juste avant, une chanson qui a marqué l'histoire du 7e art et a probablement donné du fil à retordre à Eliane Thibault et Michel Roux, les doubleurs de Julie Andrews et Dick Van Dyke pour Mary Poppins, Supercalifragilisticexpialidocious.
Supercalifragilisticexpialidocious. C'est vrai que ce mot trop long est parfaitement atroce, mais faut le dire et vous serez à la page et plus précoce. Supercalifragilisticexpialidocious.
14h-15h sur Europe 1, clap.
Parce que j'avais en étant petit pas envie de parler, papa en rage m'a tordu le nez et se mit à blâmer. Quand un jour inspiré j'ai pu faire la belle invention, ce talon m'a recommandé pour la prononciation. C'est vrai que ce mot trop long est parfaitement atroce, mais faut le dire et vous serez à la page plus précoce. Supercalifragilisticexpialidocious.
Il fait souvent le tour du monde et dans ce va-et-vient, il use d'un mot et l'on se dit c'est un grand magicien.
Les ducs et Maharaja prennent le temps de m'écouter. À l'aide d'un simple mot, je fais qu'il m'invite à déjeuner. Supercalifragilisticexpialidocious. C'est vrai que ce sont trop long et ça fait trois quatre ans. Mais faut le dire et vous serez à la mort et plus précoce.
Et si vous le dites à l'envers, ça vous donne docius, aliex, cristique, fragile, cali, super. Mais c'est tout de même aller un peu loin.
Indubitablement.
Mais dès qu'au chat, on donne sa langue, les bons restes sont permis.
C'est vrai.
Dites seulement ce petit mot et alors vous aurez tout. Mais attention, car il pourrait se faire qu'il change votre vie.
Par exemple.
Oui.
Je l'ai dit un soir à une fille que je fréquentais, et maintenant elle est ma femme. Oh! Je ne regrette pas, c'est une délicieuse créature.
Vous êtes êtes à l'écoute de Clap sur Europe 1, l'émission qui vous raconte le cinéma. Et pour parler de l'art du doublage, de ses secrets, de ce qu'il traduit aussi d'une culture nationale, je suis ravie d'accueillir Céline Monsarrat. Bonjour.
Bonjour.
Alors merci d'être avec nous dans ce studio. C'est un peu particulier de vous recevoir, puisque pour moi et pour beaucoup d'auditeurs et d'auditrices, je pense, votre voix reste évidemment associée à un autre visage, celui de Julia Roberts. Vous l'avez doublée depuis plus de 30 ans maintenant, depuis en fait la sortie de Pretty Woman en 1990 en France. Depuis, il y a eu 32 autres films que vous avez tous doublés. Est-ce qu'il y en a un ou un rôle, un dialogue qui vous a marqué plus que les autres ?
Un rôle peut-être, celui d'Erin Brockovich, parce que le sujet m'intéressait particulièrement, et puis sa prestation était assez formidable. Mais j'ai un très bon souvenir aussi du premier de Pretty Woman. D'abord, c'était la première fois. On n'imaginait pas la star qu'elle allait être. Et puis c'est aussi des souvenirs personnels. Je jouais à l'époque en province, donc je revenais... Le doublage avait duré plus d'une semaine, ce qui est énorme. Et donc, je revenais tous les jours enregistrer à Paris. Donc, il y a plein de choses comme ça. Et puis, j'avais un partenaire formidable, Richard Darbois.
Qui faisait donc Richard Gere.
Absolument. Et donc, c'est un très bon souvenir. Mais il y en a eu d'autres aussi.
Et vous l'avez rencontré, Julia Roberts, depuis ?
Et non, ça a été à deux doigts de se faire. Je crois que c'était la Gaumont. Il y a quelques années, qui avait imaginé une rencontre, et puis ça ne s'est pas fait.
Alors, avant vous, il y avait d'autres actrices qui avaient été testées sur le doublage de Pretty Woman. Finalement, ça ne l'avait pas fait. Vous avez passé les essais, vous avez été prise. Qu'est-ce qui fait que ça fonctionne avec telle comédienne plutôt que telle autre ?
Dites-le-moi. Non, je ne sais pas.
Il paraît que votre rire, rire a été déterminant.
Voilà, je pense qu'on était assez... On était assez raccord sur le rire, ouais. Mais bon, j'espère que c'est autre chose. Mais c'est vrai, parce qu'on n'a pas du tout la même voix. Elle a une voix plus grave que moi. Et écoutez, je ne sais pas. C'est les petits miracles, je ne sais pas.
Alors, qu'est-ce que ça change ? Vous êtes comédienne de doublage. Hein. Les doubleurs n'existent pas, ce sont des comédiens d'abord. Qu'est-ce que ça change en tant que comédienne d'être une voix qui n'a plus de corps ?
Mais je ne sais pas, j'en ai encore un. Qu'est-ce que ça change ? Alors, c'est vrai que, particulièrement en France, le doublage a une place importante. Et c'est vrai que depuis quelques années, les voix ont pris une importance incroyable. Les gens ont une oreille excessivement exercée, puisqu'on passe beaucoup, beaucoup d'œuvres doublées. Hein. Donc, évidemment, on est reconnu sur trois mots. Moi, ça m'arrive souvent, enfin un peu moins dans les magasins, parce que...
On vous reconnaît dans la vie.
Voilà, c'est ça, enfin, quand je parle. Et c'est drôle, toujours, parce que sur rien, sur trois mots, on dit « Ah, c'est normal que je connaisse votre voix ?» Je dis « Ben, un peu, peut-être, je sais pas. »
Julia Roberts, ça vous dit quelque chose ?
Voilà, et puis c'est générationnel. Vous avez des gens qui flashent sur d'autres... J'ai fait pas mal de dessins animés, donc il y a toute mes trentenaires qui sont plus sur d'autres choses que Julia Roberts, enfin bon, voilà.
Alors justement, sur les dessins animés, vous avez donc doublé Dory, le poisson qui perd la mémoire dans le monde de Nemo. Vous avez fait la Schtroumpfette aussi.
Oui.
Je crois que vous avez même fait un rôle dans Dragon Ball Z.
Bien sûr.
Et alors, est-ce que ça change quelque chose de doubler un film d'animation par rapport à un film en prise de vue réelle ?
Alors, je pense qu'on a un petit peu plus de liberté, parce qu'on est un peu moins... Enfin, quoique, en ce qui concerne Dory, enfin tous les Disney en général ou des productions aussi importantes, on est obligé de se caler sur la voix originelle, ce qui est normal. En plus, c'était Hélène DeGeneres qui avait doublé Dory et ce qu'elle faisait était formidable. Donc, j'ai essayé de ne pas massacrer son travail, même si au final, c'est moi qu'on entendait. Mais il y a plus de liberté, oui, bien sûr.
Ça aussi, c'est un gros défi du doublage. Finalement, vous n'êtes pas la personne... Alors, ça se pose moins dans les films d'animation, mais dans les films en prise de vue réelle, vous n'êtes pas l'actrice qui a joué le rôle. Vous arrivez et vous devez tout de suite vous mettre dans la peau d'un personnage que finalement, vous n'avez pas vraiment incarné à l'écran.
Absolument. Et c'est vrai que le doublage... demande une espèce d'immédiateté dans l'interprétation. On n'a pas le temps de se poser plein de questions. On y va, voilà. Et ça, c'est assez formidable parce que ça aide. Après, quand on tourne, quand on joue au théâtre, on est plus immédiatement dans le personnage, qu'on est obligé. Voilà.
Donc cette activité du doublage vous a servi dans le reste de votre carrière, notamment sur les planches ?
Ah, absolument. Oui, je pense qu'elle sert à tous les comédiens qui font du doublage.
Alors, vous avez doublé d'autres actrices que Julia Roberts, notamment, par exemple, j'ai découvert Sharon Stone sur deux films, ou Courtney Cox dans la saga Scream, mais après, ce sont d'autres voix françaises qui ont pris le relais. Qu'est-ce qui explique comme ça qu'on puisse parfois changer la voix en cours de route ?
Alors, pour les deux que vous citez, Sharon Stone, je dois dire que j'avais totalement oublié. Bon, on me l'a rappelé il n'y a pas très longtemps. Bon, puis c'était vraiment des choses mineures.
Oui.
Mais pour Courtney Cox, elle n'avait pas encore été, pour le premier, je crois, en tout cas en France, Friends n'était pas sorti. Donc je pense qu'ils ont dû faire des essais. Et puis, je n'ai pas été choisie. Je n'ai même pas été appelée pour les essais. Donc, voilà.
Donc il n'y a pas d'exclusivité.
Non, absolument. Ça n'existe pas. Les voix officielles, ça n'existe pas. Du jour au lendemain, on peut décider que je ne doublerai plus jamais Julia Roberts. Ils auraient tort.
Parce que tout le monde s'en souvient.
Qu'ils se le disent. Mais c'est tout à fait possible. Ouais, ouais.
D'accord. Alors, donc, vous êtes comédienne de doublage depuis plus de 30 ans. Qu'est-ce qui a changé en 30 ans dans votre manière de faire le métier, ne serait-ce que techniquement ?
Eh bien, bien avant cette pandémie épouvantable que nous vivons, on enregistrait déjà très souvent seul pour des questions de budget, de liberté de comédien ou de directeur de plateau. Voilà. Donc, on était seul derrière le micro. Mais enfin, c'était quand même pas une chose aussi courante qu'à présent. Et là, on est tout seul avec un directeur de plateau, une directrice de plateau et un ingénieur du son. Et c'est moins ludique.
Vous préfériez avoir votre partenaire
oui, bien
en
sûr,
face.
Parce qu'il faut, imaginer le partenaire qui répond. Et d'abord, c'est une difficulté pour certains comédiens, ce que je conçois complètement, parce qu'à l'heure actuelle, moi, là, je fais une série. Ils ont ressorti des cartons, une série des années 90, vous savez, avec des rires et des applaudissements. Une série assez drôle. Et c'est vrai que c'est pas très agréable, quoi. On aurait besoin de. C'est du boulevard, cette série. Donc, on aurait besoin d'un partenaire qui vous renvoie la réplique.
Et si vous n'avez pas de partenaire, c'est pour aller plus vite c'est
Non,
pour...
alors là, pour le coup, c'est à cause
De la crise sanitaire.
Voilà, de la crise sanitaire, merci. Mais avant ça, déjà, ça faisait déjà un moment qu'on était souvent seul au micro. C'est un peu triste.
Vous regrettez l'époque des années 90-2000 ?
Oui, enfin même là, d'il y a encore deux ans. Non, bien sûr que c'est triste.
Alors aujourd'hui, on assiste à un phénomène qui est assez récent. Vous en parliez vous-même d'ailleurs. De grandes stars vont doubler, notamment dans les films d'animation. Ça devient un argument marketing. Stars qui ne sont pas forcément d'ailleurs comédiennes. En France, je pense notamment à ces youtubeurs, ces humoristes, voire ces footballeurs qui ont fait des voix. Est-ce que pour vous, c'est plutôt une lumière jetée sur votre métier ou au contraire une dévalorisation ?
Alors, quand ce sont des comédiens, les star talent, là, moi je trouve ça très très bien. Parce que justement, ça a remis des paillettes et je trouve ça très très bien. Bon, c'est complètement normal, on fait le même métier. C'est tout à fait normal. Quand ce sont en effet, comme vous dites, un footballeur ou ils ne sont pas légitimes.
Et le résultat est souvent assez approximatif.
Je ne sais pas, mais cela dit, ça ne dure pas longtemps, c'est sûr. C'est un coup comme ça, c'est un coup médiatique. Voilà.
Ça ne vous inquiète pas plus que ça ?
Moi, non.
Comment on devient comédienne de doublage ?
Eh bien, un peu par hasard. Alors, où on vient vous chercher au théâtre, où ce sont des rencontres. Moi, ce sont des rencontres comme ça qui ont fait... En plus, je suis arrivée à une époque, il y a 35 ans, où on a été toute une génération de comédiens et qui, tout d'un coup, avions l'âge de nos personnages. Parce que le doublage, pendant des années, était... Les comédiens qui en vivaient étaient souvent des comédiens qui étaient à la Comédie Française, parce que comme ils n'avaient pas le droit de faire autre chose que d'être français, enfin de tourner bien sûr, mais ils ne pouvaient pas partir en tournée sur d'autres productions que celles du français. Donc c'est vrai que le doublage, c'était vraiment leur précaré, quoi. Et bien souvent, d'ailleurs c'était comme à la Comédie Française, les jeunes premières avaient... dépasser la date de péremption. Et donc, c'est vrai qu'on est arrivé toute une génération, ça a renouvelé un petit peu tout ça, et on est arrivé à une époque où il y avait beaucoup, beaucoup de travail. C'était juste avant la 5. où il y a eu tout d'un coup une explosion de séries. Donc, bah voilà, on a fait nos armes comme ça et puis on est resté.
Merci Céline Montsarrat d'être venue dans le studio de Clap. Et on se retrouve dans un instant pour le questionnaire Les films de ma vie. C'est Gaëtan Roussel, auteur, compositeur, chanteur, notamment du groupe Louise Attaque, qui va venir dérouler le fil de ses souvenirs de cinéma. À tout de suite.
Europe 1.